Et Mimi, tu l'as mis où?
Ben, de quoi donc?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi?
L'émission, la JT du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
Enfant, je me souviens du regard que je posais sur les bijoux de ma tante. Des bagues, des boucles d'oreilles, colliers et bracelets. C'était les mêmes à chaque fois, ce qui leur donnait une certaine valeur. Ces objets, ces bijoux que l'on choisit sans chercher l'accumulation sont précieux. Est-ce qu'on n'apprécie pas plus ce que l'on possède quand il a une histoire, quand il a un visage, quand il est fait autrement? Aujourd'hui avec nous en studio dans quelques instants, Céline Bourriaud et Lucie, tu es avec moi. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Donc nous parlerons de la boutique Lady Hammers de Céline Bourriaud, qui sera présente au salon Made in France Expo à Paris pour présenter son travail. Dans la suite de cette émission, on parlera également de la saison bulgare à Laval avec Patrick Mousset qui nous en parlera. Et pour terminer la JT du local, Léni et Nour sont nos deux nouveaux chroniqueurs de l'avant-scène. Ils nous présenteront l'avant-scène et sa programmation et on les retrouvera tous les 15 jours. Mais pour commencer, Lucie, je te propose de faire un petit point sur les actualités.
Avec plaisir, Margot. Lavalloise, Lavallois, dans le cadre de la deuxième opération budget participatif lancée par la ville de Laval, vous êtes invité à proposer des projets individuellement ou à plusieurs pour faire vivre un petit peu la ville. Jusqu'à fin novembre, vous pourrez soumettre vos idées et il suffira pour cela de remplir une fiche projet qui est disponible dans les maisons de quartier, dans les structures municipales et sur le site de la ville de Laval. Après ça, ce sera de décembre 2023 à février 2024 que les services municipaux vont vérifier la faisabilité et la conformité de vos propositions avant de les soumettre au vote des habitants en avril.
Et tant qu'on est à Laval, il se passe des choses demain, je crois bien.
Tout à fait, Margot. Mardi 7 novembre, demain donc, il y aura une 8e grève contre le chômage de longue durée qui est organisée par l'association Territoire Zéro Chômeur. Et le but de cet événement symbolique est d'alerter, de mobiliser contre la privation d'emploi et de revendiquer le droit d'obtenir un emploi. Partons un petit peu plus loin maintenant, Margot, je t'emmène en pays de Cran.
Ah oui, je crois avoir vu qu'il y a des préoccupations sur le risque du radon.
Oui, en fait, le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols. Il pénètre parfois dans les bâtiments où il peut atteindre des concentrations importantes. C'est à ce moment-là que ça devient préoccupant puisque l'inhalation du radon accroît le risque de développer un cancer des poumons. Même si ce n'est pas non plus Tchernobyl, c'est donc important de bien s'informer sur les risques que ça représente et c'est pour ça que la CPIE Mayenne propose le 23 novembre une réunion d'information. Ce sera à 20h à la salle de l'entracte à Renazé, c'est ouvert à tous et les participants auront le droit à un kit de mesures pour le logement qui sera mis à disposition gratuitement.
Est-ce que tu nous parlerais pas un peu de sport maintenant, Lucie?
Avec plaisir, une cagnotte a été lancée en ligne pour permettre à la sprinteuse lavalloise Soukamba Silla de participer aux JO de Paris en 2024. Ce sont les membres de son club d'athlétisme L2A53 qui sont à l'origine de ce projet et c'est notamment parce que l'ensemble des frais ont été estimés à 20 000 euros. L'idée est aussi de faire rayonner Laval et la Mayenne aux Jeux Olympiques et une quinzaine d'entreprises ont d'ores et déjà fait des promesses de dons. Pour les particuliers d'entre vous qui voudraient participer à la cagnotte, ça se passe sur Hello Asso et vous pouvez taper en barre de recherche Soukamba Silla Jeux Olympiques Paris 2024.
Sur un autre sujet, récemment, on vous a parlé de la journée parents-enfants sur le thème de la séparation. Est-ce qu'il y a d'autres choses depuis, Lucie?
Tout à fait, Margot. L'Union départementale des associations familiales organise un ciné-débat autour du film Papa ou Maman au Cinéville de Laval. L'objectif est de créer la conversation autour de la parentalité et de la famille après une séparation. Bon, et puis pour une conclusion culturelle mais pas que, le Théâtre du Tiroir organise des rendez-vous pour le cessez-le-feu et la paix tous les mercredis au Petit Théâtre. La structure a en fait voulu répondre aux appels de 6 compagnies de théâtre palestiniennes et gazaouis qui sont partenaires depuis plus de 23 ans et il s'agira donc de rendez-vous pédagogiques sur l'histoire de ce conflit. Conférences, cinéma, débats et concerts pour la paix. L'idée est que ce soit un rendez-vous qui perdure jusqu'à la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le premier rendez-vous est en association avec la Ligue des droits de l'homme, mercredi 15 novembre. Ça commencera à 20h avec le témoignage de M. Ibrahim Awad, un Palestinien de Gaza réfugié en France et invité par le théâtre. Puis à 20h30, il y aura la conférence de Monsieur Vincent Reberioux, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et invité par la Ligue des droits de l'homme 53. C'est donc mercredi 15 novembre au Petit Théâtre à Laval à partir de 20h.
Céline Bourriaud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous vous êtes lancée il y a 8 ans après avoir quitté le droit en tant que plumassière. Vos créations, vous les faites de vos mains et aujourd'hui, ils sont vendus dans à peu près une vingtaine de boutiques en France et à l'étranger. Vos créations sont également exposées au musée Quai Branly à Paris. Et pour finir cette introduction, vous avez reçu le prix Lamayaninov en 2018 et le label Atelier Art de France en 2020. C'est pas mal.
Ouais, c'est chouette.
La semaine dernière, nous avions avec nous Christine Roquelot, artisane céramiste. Et vous serez aussi vous présente au salon donc Made in France Expo à Paris du 9 au 12 novembre. Vous avez un peu votre marque de fabrique, vous faites des bijoux, mais pas seulement. Et ce que vous faites se démarque par les matières que vous utilisez.
Oui, tout à fait. Donc comme le nom l'indique, je suis plumassière. Donc en fait, je travaille la plume majoritairement. Voilà, ce merveilleux matériau qu'on peut emmener sur de multiples supports et qui prend des formes et des textures différentes à chaque fois. Donc c'est un matériau passionnant à travailler.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas votre boutique Lady Amherst, comment vous pourriez décrire votre style ? Vous faites peut-être particulièrement des bijoux, mais comme on vient de le dire, pas seulement. Quel type de bijoux, par exemple, vous faites ?
Alors, je fais beaucoup de boucles d'oreilles, c'est vrai. C'est beaucoup ce qu'on me demande. Après, je peux décliner effectivement toutes sortes d'accessoires. Donc, je vais faire des bracelets, je vais faire des colliers, des broches, des bijoux pour les cheveux. Je fais beaucoup de choses aussi sur mesure. Voilà.
Justement, j'allais vous demander, vous répondez aussi aux commandes ?
Ouais, j'adore, c'est super, les femmes viennent et puis c'est un moment privilégié d'échange où elles me montrent souvent leurs robes, leurs accessoires et puis après il faut imaginer et inventer des choses voilà, qui leur conviennent, dans lesquelles elles vont se sentir belles. Donc c'est des moments qui sont sympas à l'atelier, oui.
Tout en gardant donc votre patte, la plume, qui est, je suppose, dans toutes vos créations.
C'est ça. Donc vraiment, moi, ma marque de fabrique, c'est l'association des matières naturelles. Donc ça a été vraiment l'association des plumes avec le cuir. Et puis après, j'ai vraiment toutes les matières naturelles me parlent énormément. Donc ça va être la soie, des pierres aussi. Voilà.
Et pour toutes vos créations, d'où vient peut-être votre inspiration ?
L'inspiration, elle vient de très loin, je crois. C'est vraiment, en fait, ce que je fais, c'est mon mode d'expression. C'est pour ça que j'ai tout lâché et que ça a été vraiment quelque chose de très, très intuitif, instinctif. Voilà, il fallait que je m'exprime. Et j'ai trouvé cette manière, en fait. Et voilà, et en fait, ça ne m'a plus lâché. La plume est vraiment devenue une obsession. J'ai créé et réalisé en fait mes premiers modèles et je n'ai plus arrêté.
Quand on voit vos créations, on peut voir que c'est très coloré, la couleur, c'est quelque chose qui vous parle.
Ouais, complètement. Je veux des choses assez colorées, graphiques. Voilà, mais j'ai toujours cette exigence de... Je veux des choses qui soient assez faciles à porter, entre guillemets, avec lesquelles on se sente bien. Et puis, ça peut être... Je peux faire des choses très rock, très bohème, très romantique, poétique, mais il y a toujours ce côté élégant qui me tient à cœur. Voilà, parce que oui, c'est vraiment ça, je crois. J'essaie d'avoir des choses qui vraiment, en tout cas, quand je les vois et quand je les crée, tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose. Il y a un moment clé où je me dis, ah, là, je suis. En tout cas, ça sera ma perfection, mais j'ai une espèce d'émotion et un truc où je me dis, là, c'est juste. Voilà, c'est dans la recherche de couleurs, de formes. Et puis voilà, puis c'est aussi essayer d'apporter vraiment à chaque fois quelque chose de nouveau, d'innover. Je me souviens quand j'ai commencé, je faisais des premiers modèles, quand je voyais que ça existait déjà, je les mettais pas à la poubelle, mais en tout cas, ça me convenait pas.
Quoi.
Ouais, fallait.
Et alors, on parlait justement tout à l'heure, vous aimez particulièrement faire répondre à des commandes. Quel est, vous, votre rapport aux bijoux ? Est-ce que pour vous, c'est un rapport, un lien, je veux dire, avec la confiance en soi ? Est-ce que ça...
Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui me disent « Mais en fait, tu ne mets pas beaucoup de bijoux. » Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de bijoux, moi. Mais en fait, quand je les mets, vraiment, c'est, pour moi, c'est une façon, l'accessoire, et une façon d'imprimer, d'exprimer son caractère, je trouve. Voilà, dans le choix des couleurs, dans le choix de la forme, on va mettre des choses assez discrètes ou alors des choses beaucoup plus imposantes. J'aime ce côté accessoire. Voilà, il y a des jours où on se lève, on n'a pas du tout envie d'être vu, de rien du tout, on a envie de s'habiller en noir, j'en sais rien, enfin vraiment de passer inaperçu. Puis des jours où on est d'une humeur complètement différente et on va vouloir mettre une grosse paire de boucles d'oreilles. Voilà, et ça, je trouve que l'accessoire pour ça, pour exprimer un peu, est assez idéal. Ouais.
Donc le bijou en lien avec notre tempérament, avec notre humeur et avec...
Ouais, sa personnalité, vraiment. Mmh. Ouais.
Et comment vous vous êtes formée? Parce que du coup, vous nous le disiez tout à l'heure, vous aviez d'abord fait du droit, puis un jour comme ça, vous avez décidé de lâcher le droit pour partir.
Ouais, ça s'est fait doucement. Donc j'étais y a toujours un lien avec la nature parce que je suis une passionnée de nature depuis toujours. Hein. J'ai grandi à la campagne ici en Mayenne. Je partais toute jeune, j'avais la chance d'avoir un bois avec un petit ruisseau au fin fond du jardin et je partais dans la nature et voilà, donc je me suis formée en droit parce qu'en fait je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait au fond de moi, mais j'avais du mal à trouver ma voie, comme beaucoup de personnes je pense à cet âge-là, et donc je me suis lancée dans le droit. Je me suis dit que pour changer les choses, j'étais très idéaliste, le droit c'est peut-être quelque chose de pas mal, donc je me suis spécialisée en protection dans la protection du littoral, parce que je suis une passionnée aussi de la mer. Voilà, et donc j'ai fait des choses passionnantes dans ce domaine-là. Je suis partie à La Réunion pendant un an pour travailler sur la réserve naturelle, la mise en place de la réserve naturelle du Lagon, etc. Mais c'était vraiment les prémices. Et en fait, j'étais formée, mais je ne trouvais pas vraiment de métier qui remplissait toutes les fonctions. Et puis après, j'ai eu des postes assez importants, pour Maison du Monde notamment. Mais le côté salarié était assez étriqué. Et je sortais de la boîte un peu trop, et dans tous les sens du terme. Et voilà. Et puis enceinte de mon fils aîné, j'ai commencé à travailler la plume. Et ça a été vraiment une révélation. Comme je disais tout à l'heure, c'est devenu une espèce d'obsession et j'ai commencé à faire des modèles, etc. Et puis après, c'est l'entourage auquel on commence à les montrer et puis qui disent « Ah oui, c'est chouette, c'est moi qui les ai faits, je peux te faire une paire de boucles d'oreilles si tu veux. » Et puis voilà, et puis
Et de fil en aiguille,
ouais,
ça en est devenu un gros projet.
Et puis en fait, c'est devenu... à partir du moment où je me suis lancée, j'ai été repérée assez vite et c'est fou, quoi. Quand on est sur son chemin, quand on est aligné, je crois qu'après, le destin, je ne sais pas, s'occupe du reste.
Et du coup, si je comprends bien, vous avez appris seul?
Oui, c'est ça, effectivement, c'était votre question.
Je vous en prie.
Oui, vraiment, j'ai appris, mais oui, je me suis laissée guider par la matière, complètement. Ouais. Et c'est ça aussi qui permet, je crois, une liberté totale, parce que comme j'ai pas appris de technique, je crée mes propres techniques et donc mon travail ressemble pas aux autres en fait. Et ça permet d'avoir sa petite touche personnelle, Et je laisse la plume libre, c'est vrai, beaucoup par rapport à d'autres personnes qui travaillent la plume.
Donc nous vivons dans un monde où la production de masse et les coûts de main-d'œuvre peu élevés sont souvent privilégiés. En tant que créatrice de bijoux faits main, comment vous avez fait face au défi de concurrencer cette approche plus industrielle et comment vous avez réussi à trouver votre place sur le marché en valorisant plutôt le caractère unique et artisanal de vos créations?
Bon, je crois qu'assez simplement, en ce moment, il y a un retour un peu aux sources, aux choses un peu plus douce, une recherche d'histoire, comme vous disiez. Je crois que les gens sont assez sensibles à ça. Donc en fait, je l'envisage pas comme une concurrence au final. Les boutiques avec qui je travaille souvent sont justement très. Elles savent que ça va pas être des quantités énormes. Elles savent que derrière il y a un travail, il y a une exigence, il y a vraiment. Je crois que quand on veut des choses belles, etc., il faut prendre le temps. Ça s'invente pas comme ça, c'est pas tout d'un coup, enfin moi en tout cas je mets pas c'est pas des perles ou j'en sais rien, ou des choses qui sont, c'est à chaque fois que je travaille une plume, la plume est différente, Donc chaque modèle, bah, il va falloir retrouver les plumes, etc. Qui vont... Et puis retrouver l'équilibre du modèle en fonction des plumes que je vais choisir. Donc voilà, non, les gens sont très sensibles à ça. Puis un côté, voilà, ça en rejoint l'art, etc. Et c'est des coups de cœur, beaucoup, chez mes clientes.
Chacune de vos pièces, vous le dites, là, ça, c'est un travail minutieux, un travail très précis. C'est aussi un travail de patience, j'imagine.
Ah oui, complètement. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Mais la plume a réussi à dompter ce côté-là chez moi. Je sais pas, il y a une espèce de concentration qui se fait. Et puis c'est fascinant parce que, comme je disais, elles sont toutes différentes. Donc en fait, je n'arrive pas à me lasser. Et très souvent, même, je prends des photos que je mets en story sur mon compte, etc. Parce que c'est tout d'un coup, il y a des couleurs, un assemblage qui me... Voilà, je suis toujours émue et fascinée par ce qui se déroule sous mes yeux. Voilà.
Justement, pour vous démarquer, vous avez vraiment cette exigence au niveau du mode de production, donc qui est manuel, vous le faites vous-même, et français.
Ouais.
Est-ce que vous êtes également attentive à la provenance des matières que vous utilisez ?
C'est ça, on essaie au maximum. Voilà, donc les plumes, j'ai différents fournisseurs, des fournisseurs souvent européens. Après, c'est vrai que c'est assez difficile encore aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est un truc que j'essaie d'avoir la réponse au... Mais c'est assez compliqué de savoir vraiment l'origine pour la plupart des plumes. Après, je travaille aussi beaucoup avec des producteurs et des gens qui viennent m'apporter les plumes de mue, et ça, c'est génial. Voilà. Et puis après, pour le cuir, c'est des chutes de maisons de haute couture. Parce que comme j'utilise des petits morceaux de cuir, finalement une peau me fait beaucoup beaucoup de modèles, voilà. Et puis après, tous les apprêts c'est européen, soit italien, soit français, voilà. Je fais tout souder aussi à Paris, et la dorure aussi se fait à Paris. Ouais.
Et alors, cette présentation donc de votre travail au salon Made in France Expo est importante pour vous. J'imagine que ça donne forcément de la visibilité, même au-delà donc du département, même si on l'a dit précédemment, vous vendez également même à l'étranger. Ça révèle aussi une reconnaissance peut-être de la qualité de vos créations.
Ouais, c'est très chouette. C'est la Chambre des métiers qui, du coup, là, m'a offert cette opportunité. Donc, je les remercie encore. C'est une vraie fierté, en plus, parce que, voilà, on n'est pas nombreux. Puis on représente la région des Pays de la Loire. Donc c'est très chouette. Et c'est une belle opportunité. J'avais l'occasion de faire le salon Maisons et Objets, alors qui est plus orienté pour des professionnels, justement, des boutiques. Là, c'est vraiment des particuliers. Donc j'aime bien aussi cette approche-là, c'est chouette. Et puis ce salon Made in France me faisait de l'œil depuis un certain temps. Je devais y participer et juste avant le Covid, donc malheureusement c'était tombé à l'eau. Donc voilà, la vie fait bien les choses et j'ai hâte parce que je pense qu'il va y avoir une très belle ambiance et voilà. Et de rencontrer tous ces autres artisans, ça va être sympa. Ouais.
Et donc pour terminer, donc on a parlé des bijoux. Mais il est important de préciser que vous êtes plumassière, mais vous ne faites pas que des bijoux.
Oui, alors j'ai été invitée en juin 2022, pour faire une exposition aux bains-douches à Laval. Donc j'ai investi entièrement les bains-douches. Donc au départ, c'était une petite angoisse parce que je faisais que des pièces plutôt petites. Et donc j'avais cette idée de faire des tableaux. Et donc je me suis lancée à cette occasion-là. Et effectivement, je fais aussi des tableaux qui sont présentés dans mon atelier.
Et donc, pour tous les auditeurs qui auraient envie de découvrir ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, je suis au 9 rue de la Trinité, dans le centre historique, donc juste à côté de la cathédrale du marché, entre Moïse d'Herval et le Johannesburg. Voilà, donc...
Également sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, donc Lady Amherst. Et puis j'ai un site internet qui va bientôt être rénové.
Il est en travaux.
Voilà, qui est un petit peu en travaux pour le changer un petit peu. Voilà, mais bon, celui qui est actuellement est très bien aussi, est toujours en activité.
Et on peut vous rencontrer de toute façon directement dans votre boutique.
Oui, complètement. C'est toujours un plaisir de présenter, de montrer un peu, pour ceux qui sont intéressés, les plumes. Et voilà, et puis l'atelier est petit, donc... Il y a un espace boutique et l'espace atelier qui sont vraiment collés. Donc ça permet de créer.
Donc l'occasion de vous rencontrer, d'échanger avec vous, voilà. En plus de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Donc je le rappelle, vous serez donc au salon Made in France Expo à Paris du 9 au 12 novembre.
C'est ça.
Ben, on vous souhaite quelques bonnes journées là-bas pour présenter votre travail, des bonnes rencontres.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Avant de poursuivre cette émission, chers auditeurs, est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause musicale ? Quoi de mieux pour ça que d'écouter BB Club et son titre Le Feu ? C'est parti.
Qui brûle, monte dans la nuit, monte dans la nuit entre les arbres. Les flammes se croisent et se rassurent. La presse rougit et éclaire ton visage. Feu, feu qui monte dans la nuit. Feu, feu qui monte.
Je suis un peu de ces gens qui font des listes à n'en plus finir. Ça me rassure, ça me permet d'y voir plus clair. Et parmi ces listes, il y a celle des voyages que j'aimerais faire, des cultures d'ailleurs que j'aimerais découvrir. Et alors, sans prendre de train ou d'avion, juste ici à notre porte s'ouvre la saison bulgare. C'est à Laval, ça a commencé hier. Une occasion de découvrir la culture bulgare, ici à Laval, c'est quand même pas mal et il y a de quoi faire. Patrick Mousset de Confiance Bulgare nous a présenté cette nouvelle saison. Écoutez.
Patrick Moussel, président de l'association Confiance Bulgarie qui a été créée donc en 1990 et le président du comité de jumelage Laval-Lovec qui a été créé en 2010. La saison bulgare, c'est d'abord en lien avec la municipalité de Laval qui se déroulera sur Laval et à côté. On ne va pas se limiter à Laval. Et donc, c'est une saison que l'on organise, mais qui multiplie les actions, les activités avec des associations, des organismes tels que le lycée agricole, tels que le lycée Buron, avec Atmosphère 53, avec le 40. Le but aussi, c'est de faire des liens entre associations, ce qui est très important pour une ville comme Laval, étant donné qu'il y en a beaucoup. Et donc, de travailler ensemble, c'est vraiment, à mon avis, indispensable. Et j'espère que les autres saisons seront aussi liées, auront des liens avec les associations, mais j'en suis certain.
Donc là, on est à la deuxième saison. La première, c'était la saison algérienne qui a bien fonctionné.
La saison algérienne a super bien fonctionné. Et nous on a fait un programme pour que ça fonctionne bien. Et je pense que les Lavallois sont friands des activités qu'on leur propose. Et déjà, dans les inscriptions, on sait qu'il y aura un succès.
Donc, il y a 6 saisons de programmer. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être brièvement les prochaines saisons, sur quelle nationalité elles sont ?
Alors, la prochaine saison, au printemps 2024, c'est le Québec, qui est jumelé aussi avec Laval. Hein. Laval, les 40 ans. La saison d'après, c'est avec l'Allemagne, donc Mettmann, hein, qui est jumelé aussi. C'est pour les 50 ans de Mettmann. En 2025, on aura la Guinée. On a vraiment une compagnie de Guinéens à Laval qui est très importante. Et je pense qu'il est très important, aux yeux des Lavallois, de les mettre en valeur. Et ça, je pense que c'est indispensable pour le peuple, pour la population. Et la troisième, ce sera l'Espagne, donc avec Gandia. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des maires jeunes. Je ne peux pas vous dire qui sera le maire ou madame la maire, puisque c'est en pleine élection. On est entre deux tours. Donc je ne me prononcerai pas. Mais ce sont des maires assez jeunes. Et je pense que nous aussi, on aura un maire ou une maire assez jeune, entre maximum 45 ans, je pense, 46 ans. Donc ça reste jeune. Et franchement, toutes ces saisons, je pense que pour la ville de Laval, et pour les Lavallois, mais surtout grâce à la ville de Laval, c'est important pour le lien, surtout actuellement avec ce qui se passe, c'est indispensable de créer des liens d'amitié. Mais quelle que soit la nationalité, je trouve ça indispensable. On est vraiment dedans avec la mairie de Laval pour proposer des saisons telles qu'on le fait.
Une ouverture donc via différents prismes culturels. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner quelques temps forts ?
Alors, Le temps le plus fort, c'est le 2 décembre, hein, le jour des illuminations, de la mise en lumière de Laval, le 2 décembre au théâtre, avec le groupe Renda Trio et un spectacle de chant et de danse, et le groupe Maga professionnel de danse folklorique, et Renda Trio qui a chanté avec Stromae, donc dans la chanson L'Enfer, qui est un groupe reconnu, qui a obtenu le prix de la chanson en Belgique. Après, on a des points forts qui sont le yaourt, entre autres. Hein, puisque les secrets du yaourt, c'est, tout le monde se demande pourquoi, et franchement, il y a des gens qui seront surpris. Et aussi la conférence sur l'Union européenne, la Bulgarie dans l'Union européenne. C'est intéressant de savoir pourquoi ils sont dans l'Union européenne, depuis quand. Bon, ça, les gens le savent depuis 2007. Hein. Et puis je pense le cinéma aussi, hein, il y a 3 films hein, qui sont quand même assez intéressants. Hein. Et puis aussi une chose importante, c'est Christo. Et notre peintre et notre sculpteur. Mais Christo aussi, hein, tout le monde connaît Christo. Et donc, de faire des empaquetages à la Périne et de travailler avec le 40 aussi pour ce domaine, c'est à mon avis très bien.
Donc, la saison s'étend du 5 novembre au 3 décembre. Où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver toutes les informations concernant cette programmation ?
Sur le site de la mairie de Laval, tout simplement. Parce que nous, sur l'association, on a un Facebook qui est Confiance Bulgarie. Vous tapez Confiance Bulgarie, vous avez aussi tous les détails. Mais sur le site de la mairie, vous avez toute la programmation. Et quand vous avez les affiches, vous avez un QR code que vous pouvez prendre avec votre téléphone et vous aurez toutes les informations. Et puis, il y a aussi dans les magasins quelques catalogues qui seront distribués. Donc, mais n'hésitez pas, ou sinon vous pouvez nous joindre directement hein, à notre téléphone hein, au 06 38 17 56 27 ou sur le site bulgarie.confiance@laposte.net.
Vous êtes à l'écoute de l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et c'est la JT du local en direct avec vous. Avec Lucie, on est particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'on accueille une nouvelle chronique dans cette émission. C'est l'avant-scène qui viendra tous les 15 jours nous parler cinéma et nous parler de la programmation qui vous attend dans ce nouveau cinéma Art et Essai qui ouvre ses portes cette semaine le 8 novembre. Donc c'est Nour et Lénie qui sont avec nous, Madame et Monsieur Cinéma, dans cette agité du local.
Bonjour, du coup, comme l'a dit Margot, nous on est Léni et Nour, on est volontaires en service civique au cinéma de l'Avant-Seine. Donc c'est un cinéma associatif d'art et essai qui doit ouvrir mercredi, là, de cette semaine. Il se trouve à l'Avant-Seine et du coup pour vous situer, c'est dans le centre-ville de Laval, au 31 allée du Vieux-Saint-Louis précisément. Donc c'est juste derrière la gare Tulle, à côté du Carrefour Contact. Donc la salle, elle ne rouvre que mercredi parce qu'il y a eu quelques modifications à faire entre la salle qui devait accueillir du spectacle vivant et celle qui accueillera du cinéma maintenant. Vous serez maintenant confortablement installé dans des super fauteuils de cinéma et vous aurez aussi accès à des petites friandises à déguster pendant la séance. Vous pourrez profiter des séances du lundi au dimanche, c'est en général 4 fois par jour. Il y aura souvent 4 séances, donc du lundi au vendredi ce sera une à 14h, une à 16h, une à 18h et une à 20h. Et il y aura les mêmes séances le samedi, mais avec une séance le samedi soir à 22h ou 22h30. Et pour le dimanche, il y aura 2 séances matinales, donc à partir de 10h, je crois. Et ce sera plutôt des séances avec des films pour enfants, des films jeunesse. Pour le côté plus art et essai du cinéma, ça ne veut pas dire que la programmation et le programme ne sera pas accessible à tout le monde. Ce sera juste des films qui pourront plaire à tout le monde, mais qui n'auront pas forcément la même visibilité que d'autres films qui seront dans des cinémas qui ne sont pas classés art et essai. Donc ça permettra juste de voir d'autres films qui sont tout aussi bien dans notre cinéma en continuant de voir tous les films que vous aimez dans les autres cinémas. Donc du coup, pour vous donner un peu plus envie de venir, on va vous présenter un peu ce que les cinémas pourra proposer, donc en termes de catégories de films que vous pourrez retrouver, mais aussi pour présenter notre super programme de la semaine prochaine et de la semaine d'après dans un premier temps. Donc pour ça, je vais laisser Léni pour vous le présenter.
Bonjour, du coup, moi c'est Léni. Pour parler du programme, il faut qu'on vous dise que du coup, il est disponible sur le site internet, donc www.avantscène.laval.org. Chaque semaine, le programme il sera composé de plusieurs catégories. En premier, les sorties nationales, évidemment le mercredi. Donc pour cette première semaine, on va retrouver Ça tourne à Séoul, qui est un film coréen, et Simple comme Sylvain, un film français de Monia Chokri. Donc ça, ce sera les deux sorties nationales de notre première semaine. Et ensuite, eh ben, on aura évidemment des ressorties de films de cette année ou avant. Et les séances, eh ben, elles peuvent avoir aussi leur petit nom, par exemple les séances artefacts. Donc les séances artefacts, c'est ces films un peu bizarres, qui nous dérangent, qui nous fascinent, qui peuvent nous retourner, nous bouleverser, nous traumatiser aussi parfois. Et ces séances artefacts, il peut arriver qu'elles s'articulent aussi autour de nos séances ciné-club, qui se veulent, elles, plus patrimoine et matrimoine, donc représenter plutôt le classique du cinéma. Donc cette semaine, pour cette première semaine, on va retrouver la projection d'Orange Mécanique qui absorbe ces deux catégories, mais ça ne sera pas nécessairement le cas. Une séance ciné-club, ça peut aussi être un feel-good movie, alors que la séance artefact, elle aura toujours cet aspect, cette nature bien à elle d'être le décor d'une œuvre singulière qui dérange et qui est parfois expérimentale d'ailleurs. On aura aussi des séances ciné-débat. Cette semaine, la séance ciné-débat elle se trouvera ce vendredi 10 novembre à 20h30. Et ces séances ciné-débat, eh ben, c'est des séances toutes particulières, mais qui nous tiennent à cœur de nourrir et d'explorer. Parce que c'est la projection d'un film engagé. Cette projection de film engagé, elle implique d'une manière ou d'une autre le spectateur. Et peu importe la thématique, c'est pour nous important de développer le débat. C'est pourquoi ces séances, eh ben, parfois accompagnées d'interventions, eh ben elles seront systématiquement suivies d'une discussion ouverte à tous, bien évidemment, articulée autour du film de la séance. Et donc le premier film accompagné d'un débat cette semaine, c'est le documentaire « Je vous salue salope » qui traite du harcèlement et des cyberviolences dont sont victimes 4 femmes autour du monde. Je peux présenter aussi les films jeunes publics, les deux films d'animation qu'on va retrouver cette semaine. Donc Linda, ce sera « Linda veut du poulet ». Et on retrouve aussi le dessin animé Caillou Chou Hibou, voilà, donc deux films d'animation pour les jeunes, mais aussi pour les grands. Vous pouvez venir, si vous avez 99 ans, vous pouvez venir aussi, on vous accueille les bras ouverts. Voilà. Donc, et au niveau des ressorties, je peux aussi un peu vous en parler, donc on aura L'Enlèvement, le nouveau film de Marco Bellocchio, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment pas mal pour le coup. On aura aussi L'Arbre au papillon d'or de Fan Tien Han, et L'air de la mer rend libre de Nadir Moknesh. Voilà, pour les 3 ressorties de cette semaine.
Est-ce qu'il y a peut-être un coup de cœur que vous avez parmi ces films, une recommandation particulière, quelque chose qui vous a touché ?
je suis très classique, très, très le film de l'ancien temps, etc. Donc Orange Mécanique, ça me tient à cœur. Et d'ailleurs, ce sera sûrement moi qui le présenterai au public.
Orange Mécanique, il est culte, on le connaît au moins de nom. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, qui n'auraient juste le titre en tête ?
Soyez préparés, c'est un film assez lourd, mais qui est génial dans la forme et dans le fond aussi. Parce que voilà, c'est un film qui torture son spectateur d'une manière ou d'une autre. C'est très cru, c'est très voilà, c'est des images cinglantes, c'est assez traumatisant, mais c'est une expérience importante à vivre, je pense, quand on est fan de cinéma, pour se rendre compte de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on doit savoir montrer en tant que réalisateur. Enfin, c'est pour ça que c'est un film très important dans le cinéma, c'est parce que Kubrick a su rendre son film clivant. Ça a marqué les gens. Donc je pense que c'est assez important, c'est un film à voir. C'est pas pour tous les publics, évidemment, c'est un film qui est interdit au moins de 16 ans d'ailleurs.
Merci Léni, merci Nour. On se retrouve dans 2 semaines. Donc le premier rendez-vous de l'avant-scène, c'est donc le 8 novembre.
Le 8 novembre à 14h.
Ouais, c'est ça.
Ben, on sera au rendez-vous. Merci.
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 C'est l'heure pour nous de vous dire au revoir. L'agité du local est terminée. Ce soir, qu'est-ce qu'on écoute, Lucie ?
19h, c'est Solénoïde. On commence la première soirée de la semaine avec un voyage sonore.
Et à 20h, c'est la discothèque du programmateur.
Suivi à 21h de l'aléatoire.
Dans cette émission, on a parlé artisanat local avec Céline Bourriot. On vous a présenté la saison bulgare à Laval. Et Léni et Nour sont venus pour la première fois à notre micro pour la toute première chronique de l'avant-scène qu'on retrouvera lundi. Tous les 15 jours, merci à vous d'avoir été avec nous à l'écoute de cette émission. C'est si beau de commencer la semaine tous ensemble. On se retrouve demain à 12h15. Les temps ne sont pas simples, je le sais bien, et les semaines difficiles à commencer. Faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez, et bien sûr, du mieux possible, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.